Lorsqu'un de vos proches ne peut plus s'occuper de lui-même ou de ses affaires à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une perte d'autonomie liée au vieillissement, vous devez penser au bien-être et à la sécurité de cette personne devenue vulnérable. Régime de protection privée et publique, mandat d'inaptitude, gestion des patrimoines. Au Québec, c'est plus de 42 000 personnes qui sont représentées par un tiers, dont 13 000 sous la juridiction du curateur public. Pour démystifier un peu cette fonction, on s'entretient ce matin avec le curateur public du Québec, M. Normand Jutras. Bonjour, M. Jutras.
Bonjour.
Donc, on va commencer tout de suite, en fait, par définir votre rôle, car vous êtes le curateur public, mais c'est aussi le titre d'une fonction.
Oui. Alors, le curateur public, c'est la personne nommée par le gouvernement et c'est l'organisation aussi là, du curateur public qui voit à la protection des personnes inaptes. Alors, on entend par personne inapte, vous l'avez dit vous-même là, en début d'entrevue, c'est une personne qui est incapable de prendre soin d'elle-même ou qui est incapable de prendre soin de ses biens ou les deux à la fois. Alors, c'est essentiellement mon mandat.
Et donc, sur le plan juridique, c'est lorsqu'il y a un besoin de protection d'une personne inapte qui doit être assistée ou représentée dans l'exercice de ses droits civils, c'est à ce moment-là que le curateur public, en fait, on peut faire appel à ses services.
Oui, alors c'est ça. Quand la... Pour qu'une personne soit déclarée inapte, il y a un processus là qui doit être suivi, à savoir qu'il doit y avoir une évaluation médicale, une évaluation qui est faite par un médecin qui conclut à l'inaptitude de cette personne-là. Par la suite, il y a un travailleur social qui voit cette personne-là et qui détermine si la personne a besoin de protection. Et par la suite, ben là, il y a un processus judiciaire. Il faut s'adresser à la Cour parce que l'inaptitude est prononcée par un juge de la Cour supérieure qui va déterminer est-ce que la personne sera confiée à un tuteur ou curateur privé. On entend par tuteur ou curateur privé, c'est quand c'est quelqu'un de la famille ou un proche qui accepte la charge là de s'occuper de cette personne-là. Mais quand ce n'est pas possible, nous, on privilégie toujours ça. On privilégie toujours que quelqu'un de la famille accepte la charge. Pourquoi? Parce qu'on considère, parce que nous sommes d'avis que la personne va être mieux servie par quelqu'un qui la connaît, qui l'aime, qui connaît son histoire. Mais quand ce n'est pas possible, et ça pour différentes raisons là, dont je pourrais vous faire part, quand ce n'est pas possible, le curateur public, c'est le dernier recours. Alors, le curateur public prend charge de cette personne.
Justement, quels seraient les derniers recours qui feraient qu'on serait parmi ces 13 000 personnes dont vous assurez la protection?
Bien, en fait, le curateur public est tributaire là, de l'évolution de la société québécoise. Et quand ce n'est pas possible qu'un proche prenne charge, quand ça arrive, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent, comment ça se fait qu'il y a 13 500 personnes qui relèvent du curateur public? Bien, en fait, aujourd'hui, bon, les familles sont plus petites qu'auparavant. Mm-hmm. Les familles sont plus dispersées. Par exemple, le père est à Sept-Îles, il y a un fils qui vit en Europe, puis l'autre qui est dans l'Ouest canadien. Il y a aussi... particulièrement sur l'île de Montréal, mais on commence à avoir le phénomène plus en région aussi, des personnes qui sont complètement isolées. Non seulement des personnes seules, mais des personnes isolées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de réseau, ni d'amis, ni de parents. Il y a aussi quand il y a de la discorde dans la famille. Et quand il y a de la discorde dans la famille, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est quel est l'intérêt de la personne inapte. Et souvent, le juge peut dire, ben là, c'est pas dans l'intérêt de cette personne-là de confier la tâche à un tuteur ou curateur privé vu la chicane qu'il y a dans la famille. Mm-hmm. Et souvent aussi, ce qui va se passer, c'est que peut-être telle personne aurait accepté la charge, mais vu le climat de discorde, à ce moment-là, dit, ben non, moi, je suis plus intéressé, là, je veux pas être surveillé pour chaque 30 sous, là, rendre compte là, pour la personne. personne doit toujours rendre compte, tu sais.
Oui.
Mais là, elle se dit, ben là, dans un tel climat de méfiance et de non-confiance, moi, je suis plus intéressé à prendre la charge. Et dans ce cas-là, ben, plus souvent qu'autrement, le tribunal nous confie la personne. Alors, toutes ces causes-là font en sorte que des personnes se retrouvent à relever du curateur public.
Avez-vous des exemples pour nous de, si on veut, de tâches qu'on ne peut plus accomplir si on est une personne inapte, juste pour que ça donne peut-être la puce à l'oreille à des auditeurs de se dire, oh, peut-être que c'est quelque chose, par exemple, si on pense à des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est progressif. Il y a des changements dans le comportement, peut-être dans les capacités à prendre des décisions. À partir de quand est-ce qu'on devrait se pencher là-dessus et donc faire des démarches?
Bien, en fait, souvent dans beaucoup de familles, on a vécu cette situation-là. Par exemple, le grand-père ou la grand-mère là, qui commence à se désorganiser, comme on dit,
mm-hmm.
qui, par exemple, au niveau de son hygiène, là, n'a plus la même préoccupation qu'auparavant, va faire des oublis, là, va, par exemple, laisser un chaudron sur le poêle, va connaître aussi des périodes d'errance, va se perdre à un moment donné dans le voisinage, alors que pourtant, cette personne-là a toujours vécu là. C'est la personne qui, à un moment donné, en vient à ne plus, par exemple, pouvoir tenir son budget, savoir compter son argent. C'est la personne qui, à un moment donné, fait des oublis, en vient à tenir avec ses proches une conversation qui est désordonnée.
Mm-hmm.
Alors, souvent, là, les gens de la famille vont se dire, ben là, ça marche plus, maman, là, elle peut plus vivre seule. Et là, c'est souvent le scénario. Et là, la personne est hospitalisée. Et à partir de ce moment-là, ben les tests commencent. Là. Puis comme je vous parlais, il y a l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale et le tout est soumis au directeur général de l'hôpital, du CIS, là, du Centre intégré de santé et services sociaux, et c'est acheminé au curateur public. Et là, on intervient, il y a une assemblée de parents, de proches, d'amis, et pour voir s'il y a possibilité que quelqu'un de la famille prenne charge. Sinon, ça, c'est dans le cas des... Ce qu'on voit souvent, là, la maladie d'Alzheimer, mais aussi notre clientèle, les personnes dont on s'occupe, ça se répartit de la façon suivante. 40%, ce sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle. 30%, j'arrondis les chiffres, là, mm-hmm. 30%, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale. 20%, ce sont des cas de maladies dégénératives, Alzheimer, démence sénile. Et 10%, là, ce sont des cas de traumatisme crânien là, ou différentes autres causes. Mais par contre, Mme Pomerleau, ce que je veux porter à votre attention, et ce qui est tout à fait spécial, je vous disais que de toutes les personnes dont on s'occupe, 20%, ce sont des cas de maladies dégénératives. Mais cependant, depuis quelques années, les nouveaux cas que nous avons, à 50%, ce sont des cas de maladies dégénératives. Pourquoi? En raison du vieillissement de la population, plus de personnes âgées, plus de personnes susceptibles de développer des maladies dégénératives. Alors, vous voyez, le 20% du total des personnes, mais par contre, les nouveaux cas à 50%, ce sont des cas de maladies dégénératives. Et ce qui fait qu'au curateur public, depuis 5-10 ans, on connaît à chaque année une augmentation des personnes dont on s'occupe là, de 2% par année.
Mm-hmm.
Et ça, bon an, mal an, là, c'est toujours cette même cause-là du vieillissement de la population, avec en plus le fait, je vous disais, plus de personnes âgées qui nous arrivent, mais un nouveau phénomène aussi depuis quelques années, des personnes âgées qui ont de l'argent. Ce qui n'était pas nécessairement, si on se reporte seulement il y a 15-20 ans, le curateur public, principalement, on retrouvait là des personnes qui avaient une déficience intellectuelle avec un chèque de la sécurité du revenu, là, de l'aide sociale, mm-hmm. et des personnes âgées qui avaient un chèque de pension de vieillesse, de sécurité de la vieillesse. Mais là, ça change énormément. Et il nous arrive des personnes âgées qui ont des patrimoines importants, des actions, des obligations, des REER, des CELI, des placements à l'étranger, des gens qui ont beaucoup d'argent. le fait que les femmes aussi ont été plus sur le marché du travail, alors des personnes qui ont des pensions qui leur viennent, ils n'ont pas seulement la régie des rentes, ils n'ont pas seulement la sécurité de la vieillesse, mais ils ont aussi une pension de la CARA ou du RÉGOP. Alors, ça fait en sorte qu'au cours des 5 dernières années, les patrimoines qu'on nous avons à gérer pour ces personnes-là ont augmenté de plus de 50 %.
C'est des statistiques vraiment très intéressantes. Monsieur Jutras, il nous reste juste une petite minute. On a parlé des procédures qui sont à faire pour s'assurer de la protection, la bonne gestion de la personne et de ses biens. Combien de temps ça prend comme démarche une fois qu'on remarque qu'il y aurait un besoin jusqu'au temps que ça soit pris en charge?
Les procédures peuvent être un peu longues, effectivement. Là, on parle de six mois à un an, parce qu'il y a des délais de justice aussi à l'intérieur de ça. Mm-hmm. Mais avant qu'on termine, Mme Pomerleau, je veux vous parler, moi, du mandat de protection et que vos auditeurs soient conscients du fait que l'inaptitude peut survenir à n'importe quel âge. C'est pas nécessairement relié au vieillissement. Ça peut résulter d'un accident.
Tout à fait. Comme on l'a dit, 10 % des gens sont des traumatisés crâniens.
C'est ça. Ou problèmes de santé mentale aussi qui peuvent commencer assez jeunes. Alors, il faut que les Québécois pensent au fait qu'il faut que chacun se pose la question, si je deviens inapte, qui va prendre soin de moi, puis qui va prendre soin de mes biens? Et c'est pourquoi, moi, le conseil que je donne toujours, et j'invite tous les Québécois à signer un mandat de protection, qu'on appelait auparavant le mandat en prévision de l'inaptitude, pour que, effectivement, la personne, quand elle devient inapte, bien, elle a déjà prévu la situation et elle a déjà prévu que c'est un tel qui va prendre charge de moi et qui va prendre charge de mes biens. Alors, c'est simple à faire, un mandat de protection. C'est vous prévoyez la situation, somme toute, et il y a deux avantages à cela. C'est beaucoup plus simple pour vos proches, parce que le mandat va s'appliquer, va devoir être homologué. Alors, c'est beaucoup plus simple pour vos proches. Et aussi, ça leur évite ce qu'on a vu dans bien des cas, quand il n'y a pas de mandat de protection qui a déjà été signé. Bien, on a vu que des fois, ça devient une source de tension et même de dispute au sein de la famille. Mm-hmm. Alors que si vous avez signé un mandat de protection, vous évitez bien des problèmes à vos proches. La décision aussi sera celle que vous voulez, vous, et non pas avoir laissé la décision aux autres, et peut-être que la décision qu'ils vont prendre quant au tuteur ou au curateur qui prendra charge de vous, mais ce ne sera pas la décision que vous auriez voulu.
Bien, merci beaucoup, M. Normand Jutras. Vous êtes curateur public du Québec. Merci de nous avoir sensibilisés à cette importance de se protéger. Merci beaucoup.
D'accord, c'est bien. Au revoir.